Parole d'auteur. Parole d'auteur, Philippe Gilbert.
Il n'avait aucun pouvoir, mais portait une parole d'autorité qui fut à la fois un glaive et une flèche par son retentissement. Elle était silencieuse et amorphe, résignée, indifférente, voire complaisante. C'était une majorité dormante. Lui, d'abord et d'autres ensuite, par effet d'entraînement, furent les porte-voix de la résistance spirituelle à l'inacceptable au nom de l'unité intrinsèque du genre humain, de la dignité de toute personne et de la vertu du courage. Elle fut frappée par la force et le courage de son message, déchirant ainsi un silence assourdissant. Il sut déclencher l'engagement et inciter ses concitoyens à devenir des héros par son appel du 18 juin spirituel. Sortie de sa torpeur, elle devint une minorité agissante, souvent héroïque. Lui, c'est Jules Géraud Saliège, archevêque de Toulouse, auteur de la célèbre lettre pastorale sur la personne humaine du 23 août 1942. Elle, c'est la résistance catholique contre le pouvoir autoritaire de Vichy, inféodé à la monstrueuse idéologie nazie et à l'antisémitisme. Parce que la recherche historique ne finit jamais, Maurice Lugassi et Enguerrand Serrurier ont décidé de nous offrir dans leur ouvrage « Les héros de la résistance catholique » paru au Cerf Patrimoine des clés de compréhension indispensables de la résistance catholique et de ses ténors venus du Midi toulousain. J'ai donc le plaisir d'accueillir les deux directeurs de l'ouvrage. Bonjour Maurice Lugassi.
Bonjour.
Bonjour Enguerrand Serrurier.
Bonjour.
Merci à tous les deux d'être à Radio Présence et d'avoir accepté l'invitation de Parole d'auteur. Je salue également nos auditeurs et je leur rappelle qu'ils peuvent réagir à cette émission sur notre site et la retrouver en podcast sur toutes les grandes plateformes numériques, Spotify, Deezer, etc. etc. Messieurs, première question. Pourrait-on dire qu'à votre manière, vous aussi, vous êtes des héros?
Je démarre. On s'est voulu effectivement porte-parole. Nous aussi, porte-parole d'une histoire oubliée, plus ou moins volontairement. D'une histoire qu'on a laissée sous la poussière. C'est-à-dire que celle du Mgr Saliège, elle est visible à Toulouse, mais elle n'a pas la portée qu'elle mérite. Et son entourage, ces hommes et ces femmes absolument admirables qui ont agi avec lui et après lui, eh bien, ceux-là et celles-ci ont été totalement tues. Donc oui, porte-parole de personnages qu'on a volontairement laissés dans le silence.
Voilà. Donc vous êtes parfaitement dans la lignée. Alors, Enguerrand Serrurier, je voudrais vous poser une autre question. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnages avec un P majuscule qui sont évoqués dans ce livre. Alors, comme ça spontanément à vous deux, et j'espère que vous ne ferez pas le même choix, à part l'archevêque de Saliège, quel est le personnage qui vous a le plus inspiré ou qui, pour vous, représente vraiment un personnage avec un B majuscule?
Pour ma part, c'est l'abbé René de Nauroy, sans surprise. Voilà. Vraiment, personnage incroyable.
D'accord. Alors, on vous donnera l'occasion de revenir sur René de Nauroy. Et vous, Maurice Lugassi?
En fait, dans le livre, on s'est aussi fait plaisir. Nous avons écrit sur les personnages que nous préférions. Et pour ma part, c'est le père Roger Brown. Ce n'est pas un évêque, c'est plus modeste, mais il a un rôle extraordinaire pendant toute la guerre.
Alors, nous essaierons aussi d'y revenir. Alors, avant d'attaquer le sujet, je voulais vous présenter un peu à nos auditeurs. Alors, j'ai collationné un certain nombre d'informations, j'ai dû en oublier, peut-être j'ai fait des erreurs, donc vous n'hésitez pas à me corriger. Donc, Maurice Lugassi, vous êtes directeur de l'Institut universitaire d'études juives de Toulouse, coordinateur du Mémorial de la Shoria pour le sud de la France, c'est bien ça, président de l'Association culturelle juive hébraïque Et quand vous avez le temps, peut-être professeur de français.
Oui, disons qu'en journée, je suis professeur de français, puis ensuite, je commence mes autres journées dès que j'ai fini mes cours et mes copies.
Voilà, et j'ai cru comprendre que j'avais réduit sans doute la liste de toutes vos activités.
Oui, j'enseigne l'opéra français en Europe et aux États-Unis.
D'accord.
Voilà. Et puis après, j'écris des livres aussi.
D'accord, on va y revenir tout de suite. Enguerrand Serrurier, vous êtes maître de conférence en droit public à l'Institut catholique de Toulouse, directeur des études de la licence en droit dans ce même institut. Vous pouvez compléter si...
Je suis, on va dire, plutôt spécialiste de droit international public et je m'intéresse au droit de la guerre, au droit international pénal. Et comme je le dis toujours, je ne suis pas un historien universitaire.
Très bien. Et alors, vous avez eu la chance, on peut dire, et la chance elle est aussi pour nous, de vous rencontrer pour créer cet ouvrage. On y reviendra un peu plus tard, mais je trouve que votre coopération est largement symbolique par rapport à vos origines, par rapport à vos préoccupations respectives. Je trouve que c'est très symbolique.
Et en fait, vous savez, il y a le matchmaker, ceux qui font les mariages. On n'a pas cherché à travailler ensemble, on nous a mis ensemble. Et la personne qui a fait cela, je ne sais pas qui exactement, elle a eu une excellente intuition. Parce qu'effectivement, à la fois, il vient du droit, moi, des lettres et un peu d'histoire, et maintenant beaucoup d'histoire. On a des univers culturels en apparence très différents, mais ça a très très bien fonctionné dès le début, pour l'organisation et pour la suite. On continue des projets entre l'Institut catholique, le mémorial de la Shoah, ou l'Institut catholique, l'association Hebraïka. Enfin, ça fonctionne. D'accord. Bien, ouais, ça match bien.
Mais vous savez bien que, de toute façon, on dit que les rendez-vous ne sont jamais dus au hasard.
Oui, en tout cas.
Donc, Maurice Lugassi, vous avez publié un certain nombre d'ouvrages. Alors, j'ai retenu, j'en ai peut-être oublié, Les Justes en Occitanie en 2023. Naturellement, vous êtes co-directeur de publication pour le livre dont nous allons parler. Et vous avez sans doute d'autres ouvrages.
Il y en a un que j'aime beaucoup, mais qui est complètement confidentiel. C'était un opuscule que j'avais fait il y a quelques années, qu'on ne trouve plus. C'est « Comment convaincre un antisémite en 10 minutes ». Et j'avais fait ça, ça m'avait beaucoup amusé. Mais surtout, mon préféré est à venir, c'est comme l'enfant. C'est celui qui sort ce 16 mai, donc très bientôt, sur l'armée juive, toujours aux éditions Priva. Et là, c'est vraiment un ouvrage auquel je tiens beaucoup à partir d'archives inédites qui mettent vraiment en valeur la résistance juive et comment les juifs se sont défendus pendant toute la guerre et comment ils ont été acteurs et non pas seulement victimes.
D'accord. Et ce prochain ouvrage, vous avez bien dit, il sort le 16 mai.
Le 16 mai de 2024, donc là, c'est dans quelques jours.
Entendu. Enguerrand Serrurier, j'ai noté que vous aviez soutenu une thèse en 2018, dont l'intitulé est « La résurgence du droit au développement, recherche sur l'humanisation du droit international ». Très vaste sujet.
Ah oui, très vaste, ouais. Il concerne l'ensemble des pays en développement.
Voilà. Et ce travail a été couronné par le prix Jacques Mourgeon de la Société française pour le droit international et le prix Luc Durand-Réville de l'Académie des sciences morales et politiques.
Tout à fait, ce sont deux prix qui récompensent des travaux en droit international des droits de l'homme, d'une part pour le prix de la SFDI, Jacques Mourgeon, et pour le prix de l'Académie des sciences morales et politiques, c'est tout travail sur la coopération au développement.
D'accord. Et donc le sous-titre de la thèse, c'est « Recherche sur l'humanisation du droit international ». C'est un vœu pieux, c'est un vœu à long terme. Qu'est-ce que vous en pensez très rapidement ?
C'est un phénomène qui est en cours. Alors bien entendu, il y a des hauts et des bas, et on est plutôt dans une période de bas, vu l'actualité internationale de ces dernières années. Mais il y a un phénomène qui a été enclenché, en fait, avec la création de juridictions internationales pour protéger les droits de l'homme, pour punir les crimes graves contre l'humanité, crimes de guerre, etc., et qui sont d'ailleurs un peu un sous-texte aussi de notre travail historique. Moi, il y a des échos historiques de ce que nous avons fait qui me parlent dans le droit contemporain, forcément. La question de l'humanisation du droit international, pour faire simple, c'est simplement l'arrivée de l'individu, de l'être humain en tant que tel sur la sphère internationale, alors que la sphère internationale est normalement le cercle fermé de l'action des États. Voilà. Et c'est incontestable, cela arrive. Après, ce n'est pas absolu ni général.
Alors, vous êtes aussi auteur d'ouvrages sur le droit public, j'ai noté ça, et co-organisateur du colloque Croire et Agir, en collaboration très étroite avec Maurice Lugassi, qui a eu lieu le 21 novembre 2022. Voilà pour les présentations. Je crois qu'on a fait un petit panorama pour nos auditeurs. Ce qui nous permet d'enchaîner sur le sujet et pour moi de vous poser la question. Alors, ce livre, d'où vient-il? Comment il est né?
Je commence?
Oui.
Alors, c'est un peu dans la continuité de ce qu'a dit Maurice tout à l'heure. C'est vrai qu'on s'est trouvé, et en tout cas, on a fait en sorte qu'on se trouve. Et je dirais que l'une des personnes qui était vraiment la cheville ouvrière, c'était l'abbé Grégory Wembe, qui était vice-recteur à la recherche à l'Institut catholique de Toulouse, et qui m'a proposé de travailler avec Maurice après t'avoir rencontré, si je me souviens bien, en me disant, grosso modo, quelque chose comme « Dites donc, Enguerrand, vous aimez bien l'histoire, vous m'avez déjà parlé de René de Nauroy, parce qu'effectivement ce personnage, je l'avais déjà un petit peu rencontré, puisque n'étant pas toulousain, je m'étais un petit peu renseigné tout de même sur l'histoire de l'établissement où j'arrivais. Et ce projet assez original, c'est vrai, auquel en tout cas moi en tant que juriste je n'avais jamais été confronté jusque-là, m'a paru tout de suite intéressant avec effectivement cette rencontre et cette synergie entre des mondes assez différents. À l'origine, il s'agissait de faire une commémoration des 80 ans de la lettre pastorale de Mgr Saliège, qui était d'ailleurs insérée dans un contexte plus général de commémoration toulousaine, qui a été d'ailleurs orchestrée, doit-on le dire, de main de maître.
Avec une équipe issue de l'archevêché, nous avions d'abord réalisé cette commémoration sur le parvis de la cathédrale, et c'est vrai que nous avions réfléchi à un élément populaire, donc cette commémoration devant le parvis, les discours, la télévision, etc., et un élément plus intellectuel. Et c'est là que je voulais absolument que l'Institut catholique soit partie prenante, soit très active, ce que nous n'avions pas fait il y a 5 ans, où nous avions aussi, je parle du mémorial de la Shoah, réalisé cette commémoration. Et effectivement, l'Institut catholique a joué un rôle essentiel à côté de l'équipe Saliège, au sein de l'équipe Saliège, et c'est là qu'avec Enguerrand, on a pu créer ce programme et puis réaliser cette journée qui fut passionnante.
Voilà, donc il s'agit d'une journée, d'un colloque, une journée d'études qui était intitulée donc Croire et Agir. Vous avez ensuite utilisé la matière de ce colloque pour publier un livre. Et alors là, je voudrais insister auprès des auditeurs. C'est que, a priori, quand la première fois qu'on s'est rencontrés, vous m'avez parlé de colloque, d'un acte.
D'acte de colloque,
je me suis dit, ça va peut-être être un peu difficile. Et j'ai été très agréablement surpris, et je voudrais très humblement, mais vous en féliciter à l'antenne. Vous avez fait une première partie vous avez été intitulée « Introduction générale ». Qui est absolument sensationnel pour bien comprendre et pour bien apprécier tous les textes qui viennent derrière. Là, vous avez fait œuvre pédagogique. Et pour rebondir sur la première question, oui, messieurs, je pense qu'on peut dire que vous êtes des héros, parce que vous portez la parole, vous l'explicitez, et vous donnez des clés de compréhension, notamment lorsqu'on se plonge dans un certain nombre de textes, parce qu'on a déjà une trame globale, on a une analyse du contexte qui permet effectivement de bien comprendre tout ce qu'on lit et de faire des grandes passerelles. Donc, quand vous avez choisi ce titre-là, vous ne l'avez pas fait par hasard non plus.
Ah non, 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 mais on l'a fait rapidement. On l'a fait rapidement, c'était dans son bureau, c'était très bien.
Oui, c'est, ouais. Ça a paru comme une évidence, ça c'est vrai. On s'est dit les héros, effectivement, les porte-parole. Et je me permets d'insister là-dessus, c'est vrai que le fait que ce soit les 80 ans, c'était important. Parce que les générations de ceux qui ont vécu les événements disparaissent, malheureusement, c'est la course du temps. Et il nous semblait qu'il fallait effectivement, alors que la mémoire commençait à s'effriter, qu'elle soit occultée ou tout simplement oubliée, par aussi modestie, hein. Beaucoup de gens qui étaient dans la France libre, etc., ne racontaient pas leur guerre à leurs enfants ou à leur famille parce qu'ils avaient le souvenir de ceux de 14 qui leur avaient déjà asséné tous leurs souvenirs d'anciens combattants. Donc il y avait une sorte d'autocensure aussi, hein, qui était assez présente dans ces générations-là. Il nous semblait vraiment important qu'il y ait une trace maintenant, en quelque sorte. C'était le moment opportun.
Et à destination du grand public. Ce n'était pas un colloque qui se voulait justement... élitiste ou avec du jargon, mais on a fait un programme pour tous, et quand ils nous ont envoyé leurs articles, on les a pas retravaillés complètement, mais voilà, on a fait en sorte que ce soit lisible pour tous. Et c'est vrai que c'est un livre que tout le monde peut lire, quel que soit le diplôme, enfin, pourvu qu'on soit intéressé par l'histoire de cette
absolument,
période.
Absolument, c'est très accessible, et on pourrait qualifier cet ouvrage de manuel de transmission. Hein. Finalement, c'est tout à fait remarquable. Messieurs, je vous propose une première pause musicale.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends, and some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening. But I must go on. The frontiers are my...
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
The Partisan de Leonard Cohen. Le refus de vivre à genoux, l'espoir que la liberté reviendra un jour, Maurice Lugassi.
Et oui, et puis c'est mon cheval de bataille, c'est la résistance juive, les partisans, c'était les résistants. Et Leonard Cohen et ses paroles, et ça nous rappelle évidemment la chanson de Anna Marley, et celle qui sera ensuite celle de Kessel et Druon. Mais ce qui m'intéresse beaucoup dans cette chanson, c'est montrer comment la guerre n'a pas provoqué une sidération, mais une réaction. Et puis, ce qui m'intéresse aussi, c'est que on a une version anglaise, évidemment, avec Leonard Cohen, et je reviens à la lettre de Saliège, elle a eu une répercussion mondiale, et elle a été traduite en anglais, et on a cette ouverture à l'international, y compris pour la lettre de Saliège. C'est en fait ce qui s'est déroulé à Toulouse, mais comme ce qui s'est déroulé en Pologne ou en Europe de l'Est avec les partisans, bien concerne au moins le monde occidental. Et c'est cela aussi, ce n'est pas de l'histoire locale à aucun moment.
Presque de l'histoire universelle.
Complètement, oui, en tout cas occidentale.
Occidentale,
oui.
Ouais. Alors, donc, l'objet de ce livre, c'est la biographie de guerre de ces porte-paroles de la résistance catholique. Alors, pour nos auditeurs, est-ce que vous pourriez Dans un premier temps, on va essayer de lire les premières phrases de la lettre de Mgr Saliège. Et ensuite, j'aimerais que vous nous présentiez tous ces porte-parole, tous ces héros, rapidement. Mais on va éviter de faire une liste exhaustive.
Oui, hein, oui.
Mais pour donner une idée. Maurice Lugassi, vous pouvez la...
Oui, avec grand plaisir. Donc, il s'agit d'un passage de cette lettre. Cette lettre, c'est 23 lignes, lues à 23 août 1942. Les Juifs sont des hommes, les Juifs sont des femmes. Les étrangers sont des hommes, les étrangères sont des femmes. Tout n'est pas permis contre eux, contre ces hommes, contre ces femmes, contre ces pères et mères de famille. Ils font partie du genre humain. Ils sont nos frères, comme tant d'autres. Un chrétien ne peut l'oublier.
Merci beaucoup. Alors, cette lettre, c'est la lettre écrite par l'archevêque de Toulouse à un moment qui est quand même un moment particulier. Enguerrand Serrurier, vous pourriez nous donner des éléments de contexte.
On est en août 42, la rafle du Veldiv a déjà eu lieu, on en est à des rafles en province, et notamment en zone dite libre, non occupée en tout cas directement par les Allemands. Et il y a une prise de conscience, puisqu'on commence à voir effectivement les gens être emmenés, y compris en province, par les forces de police françaises et la gendarmerie. Et cette lettre apparaît vraiment à un moment où Vichy est en quelque sorte nu dans tout son appareil répressif, puisqu'on en vient à aider les Allemands à procéder à cette déportation raciale.
D'accord. Et alors, ce qui est remarquable, c'est que dans cette atmosphère, dans ce contexte, on s'aperçoit que cette lettre a un retentissement, une résonance exceptionnelle. Alors, il y a un certain nombre d'éléments qui contribuent à ce phénomène. Et alors, il y a notamment, paradoxalement, c'est que l'Église reste... à cette époque, un espace de semi-liberté relative via laquelle la parole peut un petit peu s'exprimer.
Elle peut s'exprimer publiquement.
Oui.
C'est cela, parce que les journaux clandestins existent depuis 40, les tracts font partie des premiers actes de résistance, mais effectivement, il y a eu déjà des lettres qui ont été envoyées au maréchal Pétain, à son gouvernement, en faveur des Juifs ou contre les lois antisémites. Mais c'est vrai que pour la première fois, un prélat prend la parole en public et demande à tout son diocèse de faire de même. Donc c'est cela la grande nouveauté et le grand courage de Saliège, c'est d'avoir osé porter la parole en chair. Et là, il a usé... Il savait que ça... les conséquences, il ne les connaissait pas. C'est ça aussi. Il risquait, mais il ne savait pas ce qu'il risquait. Et d'ailleurs... Le préfet a voulu l'interdire. Donc, il y avait au niveau de l'État, au niveau du gouvernement de Vichy, eh bien, ils sentaient qu'il y avait un danger avec cette lettre. Ils n'ont fait qu'accélérer parfois sa lecture, que provoquer encore plus sa lecture par l'interdiction de la préfecture. Donc, oui, espace de liberté, espace de courage. Et puis, est-ce que pour autant ils allaient arrêter la guerre, ils allaient arrêter les déportations ? Non, mais il fallait le dire. Voilà, il fallait le dire, il fallait le clamer haut et fort.
Alors, dans cette expression, il fallait le dire, il fallait le clamer haut et fort, et il fallait aussi qu'il y ait une certaine résonance. Et cette résonance, elle a été extraordinaire. Comment on peut analyser cette résonance par rapport à la notion de pouvoir et d'autorité morale, Enguerrand Serrurier ?
Je pense déjà qu'en fait, cette protestation correspondait à un besoin. Et le père Roger Braun le dit très bien, quelques semaines après, en disant « Enfin, enfin quelqu'un a parlé, et il était temps ». Et il parle évidemment des archevêques de Toulouse et de Lyon. Donc je pense qu'il y avait une attente aussi, alors que ce soit dans les milieux de la résistance peuplée de catholiques qui existent depuis 1940. Hein, il y avait déjà des catholiques dans la France libre. On peut citer ne serait-ce que l'amiral Thierry d'Argentlieu, qui était en religion le père Louis de la Trinité, Carme. Donc, ces catholiques existaient de façon dispersée. Et donc, le catholique étant forcément lié à une hiérarchie ecclésiale, il y avait un besoin parmi les résistants catholiques de s'approprier cette prise de parole des évêques. Et je pense que c'est ce qui a aidé à la diffusion de la lettre dans les réseaux de résistance, en disant, ça y est, une autorité morale, une personnalité qui a un poids, et n'oublions pas que l'Église catholique, dans son organisation, dans sa construction, ressemble en quelque sorte à un établis. C'est la continuatrice de l'Empire romain avec les diocèses. Les diocèses, c'était le nom des provinces romaines. Donc, on a cette idée qu'il faut une autorité hiérarchique qui se pose et qui justifie l'action des fidèles. Et il me semble que ça, c'est fondamental dans la diffusion de la lettre, notamment dans les réseaux de la France libre, par exemple. On dit que ça y est, enfin, on a une caution morale qui vient cautionner, finalement, ce combat. Il me semble, et ça c'est évoqué également plus tard lorsque on peut parler également de la déportation en 1944 des clercs de l'Institut catholique, lorsque Mgr Théas va être déporté et amené à Compiègne, Mgr Théas l'évêque de Montauban, le cri du cœur qui sort de certains cantonnés, certains emprisonnés à Montauban, c'est « enfin un évêque parmi nous, enfin la haute hiérarchie va subir ce que nous vivons ». Et donc, il y a à la fois donc, un besoin de cette autorité pour légitimer l'action, et puis le besoin aussi eh bien, du peuple de l'Église, de voir ses chefs se prononcer en faveur de la dissidence, ce qui n'a rien de facile ni d'évident.
Oui, parce qu'il faut préciser le contexte aussi à l'intérieur de l'Église à cette époque-là, c'est qu'on peut considérer que l'archevêque de Toulouse est quand même un original, si on peut dire, et il a la chance de mobiliser et de provoquer une réaction en chaîne de cinq autres évêques, qui fait qu'effectivement, ça va donner un certain poids à la démarche, puisqu'elle va être répétée. Ils vont écrire...
Ah oui. Alors, la lettre de Saliège a une répercussion immédiate. C'est que le régime de Vichy tremble sur ses fondations, et les grandes rafles qui ont eu lieu entre 16 juillet pour la rafle du Veldiv et début août, avant le 26 août, et même après le 26 août, ça va s'arrêter. Ils vont arrêter les grandes rafles parce qu'ils ont bien senti que la population était émue de voir ces familles emmenées ainsi vers des wagons plombés. En France, les déportations vont s'arrêter carrément pendant 3 mois. Et dans le sud, c'est entre 3 et 6 mois, c'est un peu plus. Donc on a des conséquences immédiates. C'est vrai que 3 mois, alors qu'en 1942, tout juif en Europe est condamné à mort par la conférence de Wannsee, eh bien, cela donne, dans le pire des cas, un sursis, dans le meilleur des cas, l'occasion de fuir, de s'échapper, peut-être de s'évader. Parce qu'il y avait aussi, dans les camps, et c'est... et notamment Thérèse Doty, des personnes qui étaient là pour assister les personnes dans les camps, mais qui parfois aidaient à des évasions ou faisaient sortir les enfants. Donc ce temps gagné était autant de vies, enfin, pas autant, mais équivalait à des vies sauvées.
Voilà, tout à fait. Alors au-delà de ça, c'est cet impact très fort... Il est sous-tendu par ce que vous avez bien expliqué, cette notion d'autorité spirituelle, d'autorité supérieure. Et à cet effet, je voulais lire un petit passage du texte qui a été fait par Étienne Guyot, donc qui a été préfet de la région, et qui évoque le fait qu'on associe souvent le pouvoir et l'autorité, mais que c'est pas évident. Et il se réfère à l'Antiquité. En parlant de la République romaine, il dit « Il y avait deux têtes, le Sénat et le peuple de Rome. Le pouvoir était au peuple, l'autorité était au Sénat. L'autorité, auctoritas en latin, dérive du verbe augere, qui veut dire augmenter. Et de conclure, l'autorité n'est donc pas le pouvoir, elle le complète, elle l'augmente, elle lui donne sens et perspective, elle lui donne le surplus de légitimité, de gravité, de profondeur qu'il ne possède pas en lui-même. Et donc, effectivement, quand on voit les conditions dans lesquelles Saliège s'est exprimé, aucun pouvoir, mais une autorité immense dans les conséquences.
Tout à fait, et même, je me permets d'enchaîner, même s'il n'était que 6 sur plus de 70 à 80 évêques en France à l'époque, même s'il n'était que 6, le pouvoir de Vichy était tellement fragile qu'une simple contestation, une fragmentation dans le front de l'Église qui était choyée par Vichy, hein, pour avoir un besoin, un écho dans la population, une simple contestation isolée pouvait déjà en soi ébranler l'édifice.
Voilà, et c'est tout à fait ce qui s'est passé. Alors, les autres évêques qui ont publié des lettres pastorales, qui ont utilisé, on pourrait dire, sans craindre l'anachronisme, dire qu'ils ont utilisé les mêmes réseaux sociaux.
Oui, c'est ça.
Alors, il y a l'évêque Pierre Maritéas de Montauban. Il y a l'évêque de...
Alors, dans l'ordre,
oui.
Dans l'ordre chronologique, oui. C'est de Mgr Théas le 26 août. Donc, Saliège était le 23 août.
Oui.
Mgr Théas le 26 août, donc de suite, après. Et ensuite, on attend un peu en septembre. Là, la parole la plus importante au niveau symbolique après le déclencheur que fut Saliège, c'est Mgr Gerlier, le primat des Gaules, à Lyon, et c'était le 6 septembre. En même temps que Mgr Delay à Marseille, ouais. Toujours le 6 septembre. Et la liste se termine avec Mgr Moussaron à Albi, le 20 septembre. Cela a été précédé dans le monde chrétien par une lettre du pasteur Bugner, mais qui n'a pas lu en public, c'était pas dans son idée, mais la lettre du pasteur Bugner envoyée au maréchal Pétain pour contester les déportations, elle est antérieure, elle date du 20 août 42, donc 3 jours avant celle que Mgr Saliège a fait lire en chaire.
Et précisons, je me permets, que Moussaron est peut-être le dernier chronologiquement, mais en fait, dès la fin août, c'est lui qui pousse Gerlier à intervenir publiquement.
Oui, parce que naturellement, ils se connaissent bien, et donc ils communiquent depuis longtemps, et donc ils sont sur les mêmes positions.
Plus ou moins les mêmes positions, mais en tout cas, il y a des connexions étroites. Et ces connexions étroites, elles datent dès 1940, dans un espace qu'on a oublié, qui s'appelle le comité de Nîmes, entre 1940 et 1942, les grandes rafles. Près de 30 organisations protestantes, catholiques et juives sont réunies à Nîmes et organisent l'assistance auprès des camps. Et on retrouve l'abbé Glasberg, envoyé par Gerlier, on retrouve le pasteur Bugner et on retrouve les Quakers. Enfin, ça va être un véritable laboratoire qui ensuite agit déjà pour l'assistance, va se dissoudre en 1942 à la suite des déportations, parce qu'ils se sont rendus compte finalement que leur travail avait consisté à maintenir vivants, pour les Juifs en tout cas, des hommes et des femmes qui étaient destinés à la déportation. Et ça n'avait plus de sens. Donc ils ont complètement, donc se sont dissous, et l'action, est, pour la plupart, est entrée en clandestinité avec des maisons, le château de La Haye, la maternité d'Elne. On a changé de modalité d'action. Mais là, on a dans ce laboratoire, ils sont tous en contact. Et en particulier entre Lyon et Toulouse, cela ne cesse de voyager d'un train à l'autre. Ils ne cessent de communiquer. Les mêmes personnes, on les retrouve. Des personnes juives, catholiques, protestantes, passent d'une ville à l'autre et travaillent très, très étroitement.
Donc, finalement, vous décrivez un réseau.
Oui, complètement.
Et donc, nous allons essayer, dans quelques minutes, d'analyser de plus près ce réseau Saliège. Auparavant, je vous propose un petit peu de musique.
Ils étaient vingt et cent, ils étaient les milliers. Nous et maigres tremblants dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient vingt et cent. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Il s'appelait Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel. Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Nous sommes toujours en compagnie de Maurice Lugassi et de Enguerrand Serrurier pour leur ouvrage Les héros de la résistance catholique, paru en 2024 aux éditions Cerf Patrimoine. En mémoire des victimes des camps, cette très belle chanson de Jean Ferrat, et en mémoire de son père également.
Bien entendu, c'est un texte qui bouleverse lorsqu'on connaît l'histoire personnelle de Jean Ferrat. Au-delà, c'est un texte qui bouleverse pour lorsqu'on connaît l'histoire personnelle de Jean Ferrat, et au-delà, qui s'applique parfaitement à notre contexte toulousain, puisqu'il s'agit de dénonciation de la déportation, et même au sein de l'Institut catholique, par exemple, la résistance sera confrontée à ces déportations en 1944. Donc il me semblait qu'il était tout à fait pertinent d'entendre ça.
Oui, le vrai nom de Jean Ferrat était Tenenbaum.
Revenons au réseau Saliège.
Oui.
Alors, est-ce que on peut parler, le terme réseau et le terme propre à employer ?
Oui, ils étaient en contact permanent. Et ils étaient non seulement autour de Saliège, on a des hommes et des femmes qui sont en contact, qui sont aussi en relation avec les institutions catholiques, notamment les écoles catholiques dans la région. Enfin, quand je dis dans la région, jusqu'en Aveyron, dans le Gers, etc. Et puis, réseau aussi, parce qu'ils étaient étroitement liés avec des réseaux d'assistance juive ou des réseaux d'assistance protestante. Donc on a comme cela vraiment plusieurs groupes qui sont en communication constante. Par exemple, au moment où les Juifs arrivent dans le sud de la France, ils ne savent pas où aller. Mais parfois, leur voisine sait qu'ils sont Juifs, ça se voit, ça s'entend. En tout cas, ça s'entend à l'accent. Eh bien, il leur dit parfois, allez voir monsieur le curé, il va peut-être vous aider. Ou allez voir à la synagogue, rue Palapra à Toulouse, si c'est vous allez peut-être trouver quelque chose. Donc on a, et à partir de là, se met en place soit de l'assistance, soit de l'entrée en résistance. Mais donc oui, c'est un vrai réseau.
Alors ce réseau, il est à la fois, on pourrait dire, ancien, puisque la haute hiérarchie de l'Église, notamment entre Lyon et Toulouse, se connaissent. Donc il y a, je dirais, sur le moment, une réactivation d'un réseau qui existe depuis longtemps. Et puis ce que vous venez d'écrire, c'est le fait que la situation et la réaction de Saliège et ses conséquences, c'est la dissémination et l'activation et le fait d'étendre ce réseau.
Alors, l'action de Saliège immédiate, c'est la dynamisation du réseau des justes. Jusqu'à présent, et puis la nécessité des justes à partir de 1942, parce que jusqu'en 1942, on pouvait encore se réfugier dans des maisons. Je parle des foyers, des homes, des foyers, des maisons d'enfants. La plus célèbre, celle de Moissac, qui va être dissoute fin 1943. Mais on pouvait encore être dans des maisons, mais à partir de 1942, on se rend compte que ce sont des souricières. Donc il faut vraiment cacher des familles, des enfants. Et là, Et c'est là que l'action de Saliège est ô combien salutaire et presque miraculeuse, parce que grâce à lui, les organisations catholiques, les couvents, les écoles, qui jusqu'alors attendaient un signal clair, précis du pape, ont un signal clair et précis du représentant du pape, en tout cas de l'archevêque, d'un prélat de l'Église. Et là, effectivement, on a la dynamisation du mouvement des justes, et c'est là qu'on a un réseau géographique qui se met en place, par exemple avec le couvent de Massip ou à Masseube, et ça part de l'archevêché l'actuel, ça part de Toulouse, et souvent ça partait ensuite par train, accompagné, mais oui, on a ainsi un réseau ferré qui rejoint un réseau d'assistance et le réseau Saliège.
Et à ce réseau ferré, il y a le rôle prééminent des femmes.
Ah ben oui, les femmes dans la résistance catholique sont primordiales. On peut déjà citer des statistiques en disant que dans le témoignage chrétien, on estime qu'il y avait à peu près 25% de femmes. Alors que dans la plupart des autres réseaux, on est plutôt sur du 10 à 12%. Et ces femmes, ce qui est intéressant, ne sont pas réduites qu'à des rôles de subordonnées, au contraire, ou de simples passeuses de messages. Ces femmes, ça peut être des religieuses qui gèrent des couvents. On pense à la sœur Denise Bergon, Marguerite Roch, qui vont...
Au couvent de Massip.
Qui vont sauver des dizaines et des dizaines, je crois 83 de mémoire,
oui.
Voilà, 83 enfants, mais aussi des laïcs. Moi, je cite souvent l'exemple de Thérèse Doty qui est très impressionnant. Dès le 11 novembre 40, on la voit manifester avec la manifestation des lycéens parisiens devant l'Arc de Triomphe en brandissant De Gaulle dans les mains. On comprend l'allusion. Bien sûr, la manifestation est dispersée par les Allemands. Et cette jeune femme qui est assistante sociale et qui considère, je cite, et c'est intéressant, que le silence des évêques est une flétrissure à la vérité. Et on sent qu'il y a quelque chose de très puissant derrière. Et c'est une des personnes qui va motiver Mgr Saliège à réagir en décrivant ce qui se passe dans les camps de Noé et du Récébédou.
Et il faut citer Louis Steb qui a un rôle essentiel dès 1940. Comme Thérèse Doty, elles sont déjà très actives. Quoi que disent les prélats, elles sont là de toute façon.
Elles sont là. Et donc, elles sont, comme vous dites, elles sont assez nombreuses. Alors, pour n'en citer quelques-unes, vous avez cité Thérèse Doty, il y a Denise Bergon, Marguerite Roch, Mademoiselle Thèbes, Germaine Ribière et Marie-Rose Ginest. Donc,
et son célèbre vélo.
Et voilà, il y a du monde, il y a du monde actif, il y a du monde dévoué, organisé et convaincu. Et ça décrit bien le réseau de terrain.
Et du monde qui prenait du risque, beaucoup de risques.
Tout à fait.
Parce que non seulement, par exemple, Marie-Rose Ginest transportait les tracts, mais pour un transport de tracts, c'était au minimum la prison, et cela pouvait aller jusqu'à la déportation. Elles étaient à pied, à vélo, totalement démunies de toute défense. Donc il y a de véritables risques qui étaient pris dès 1940.
Et pour le coup, le qualificatif de héros pour ces femmes s'applique dans les deux sens. Alors, au-delà du rôle des individus dont le moteur est leur conscience, il y a une exception, une spécificité dans le réseau Saliège, c'est qu'il y a une institution résistante, quasiment résistante, qui est l'Institut catholique. Alors, en quoi le rôle de l'Institut catholique a été déterminant ?
Alors, je précise quand même, l'institution a été résistante parce que sa direction a été résistante. Et Mgr de Solages a toujours respecté la pluralité des opinions et on ne pouvait pas afficher de façon trop générale et absolue quand même ses positions à l'époque. Mais c'est vrai qu'on est face à une institution qui va en soi se mettre au service de cette quête de protection des personnes et de soutien à la dissidence. Et qui va devenir un foyer, qui va devenir un foyer de rencontres totalement improbable, pourrait-on dire, entre différents réseaux, des communistes, des juifs, des socialistes, des républicains espagnols, qui fréquentaient déjà la maison avant-guerre. avant-guerre, il y a déjà des républicains espagnols qui sont hébergés à l'Institut. Et donc on a dans ce petit lieu, dans cette petite université catholique, un concentré de personnalités très différentes et qui ont, je pense, tous en commun une certaine conception de l'homme. Et qui ont surtout la chance d'avoir à leur tête un homme, Bruno de Solages, qui est particulièrement énergique et qui est un homme de confiance de Monseigneur Saliège. Il y a une relation quasi filiale entre les deux. Ils se connaissent depuis une bonne dizaine d'années avant le déclenchement de la guerre. Et donc, il y a une confiance qui est très forte. Et il est clair que si le binôme n'avait pas fonctionné, rien n'aurait pu se faire entre Monseigneur Saliège et Monseigneur de Solages.
Voilà, et alors donc Bruno de Solages est quelqu'un qu'on pourrait qualifier de cheville ouvrière dans ce domaine-là, et paradoxalement, il n'a pas été reconnu comme juste.
Oui,
alors, qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, j'en parle dans mon livre précédent sur les justes en Occitanie. C'est une procédure quasiment juridique pour être juste. Il faut que deux personnes juives qui ont été sauvées portent témoignage en faveur de la personne non juive qui les a sauvées. Et ces deux témoignages sont ensuite portés à l'institution qui accorde le titre de juste, qui est Yad Vashem, située à Jérusalem. Pour Solages, ce qui est très étrange, c'est qu'on n'a pas les deux témoignages signés. On a des dizaines de témoignages oraux, mais qui ne sont pas suffisants. Voilà, c'est un vice de forme.
Un vice de forme
regrettable. Et peut-être une explication aussi, c'est que certes c'est une cheville ouvrière, mais c'est aussi un donneur d'ordre. Et donc ce n'est pas Solages personnellement qui va amener telle ou telle famille. Par exemple, les gens étaient protégés, cachés dans la bibliothèque. Donc c'est plutôt le conservateur de la bibliothèque universitaire qui était en contact quotidien avec eux. Alors on a des traces, on sait qu'ils se disaient même en 44 que pour se cacher quand on est persécuté, il faut aller à l'Institut catholique voir Monseigneur de Solages. C'était quasiment de notoriété publique, ce qui est déjà en soi assez gênant, même dans la résistance en fait. Et donc finalement, beaucoup savent, on a des témoins qui nous disent « Oui, nous savons que Monseigneur de Solages faisait cela, mais nous ne pouvons pas le dire directement, nous n'en avons pas bénéficié directement d'un contact direct avec lui. »
Alors, je recommande aux auditeurs les chapitres concernant l'Institut catholique, parce qu'on y apprend beaucoup de choses, et l'intensité, l'organisation, les précautions qui sont prises sont...
Pas tant de précautions que cela. C'est ça qui est assez fou. Par exemple, le numerus clausus, donc le nombre de juifs autorisés à être inscrit à l'Institut catholique, il n'est pas respecté. Et malgré les contrôles, il n'est pas respecté. Mais
c'est vrai. Et c'est... Ce fait qu'ils ont bénéficié finalement d'un régime un peu exceptionnel par rapport aux universités laïques, finalement, qui étaient plus surveillées.
Oui. Hein? Oui.
Il y avait le respect jusqu'en 1944, c'est-à-dire jusqu'à ce que Alois Brunner prenne la direction de toute la répression contre les résistants et prennent la direction aussi de la chasse aux juifs. Donc jusqu'à l'arrivée d'Alois Brunner, il y avait un respect de monsieur le curé et donc de l'institution catholique, y compris auprès de la police française, de la gendarmerie, voire des miliciens.
Voilà, merci beaucoup. Nous allons bientôt arriver au terme de cette émission. Auparavant, je voudrais que assez rapidement, nous parlions un petit peu de l'écho contemporain de cette partie de l'histoire et vu finalement par rapport aux catholiques et à la résistance. Dans le livre, il y a une phrase où vous dites « Le prêtre dans le maquis est vu comme un catholique dans la résistance. Rarement on parle de la résistance dans le catholicisme français. » Et donc, rien que pour ces deux assertions presque opposées, est-ce que c'est pas ça un des enseignements principaux de ce livre?
L'un des enseignements principaux, vous l'avez dit, c'est écouter sa conscience, catholique ou autre, il faut écouter sa conscience.
Mais en termes de mise au point par rapport à l'histoire?
Par rapport à l'histoire, C'est une histoire qu'on ne veut pas voir, c'est-à-dire c'est une histoire qui a été un peu confisquée par les communistes, par les gaullistes, pour, je le dirais aussi très clairement, les républicains espagnols, mais ils ont fait leur travail, ils ont travaillé pour leur mémoire, et la mémoire catholique, très bizarrement, n'a pas été mise en valeur.
Voilà. Et vous avancez une explication, une raison. Vous avancez cette explication que vous qualifiez de syndrome du profil bas. Finalement, l'institution n'a pas trop osé revendiquer la part légitime qu'elle a eue dans la résistance.
Oui, et puis elle s'est tue au profit d'un roman national qui s'écrivait, d'un roman unitaire. Et donc les voix singulières particulières, en tout cas celle-ci, est restée sous silence pour que la nation puisse se construire, se reconstruire aussi. Mais c'est vrai que le profil bas, c'est intéressant parce que ça, jamais ils ne se mettent en avant. Jamais. Comme les justes, c'est pas eux qui font pas de demande. Jamais ils ne se mettent en avant. On ne retrouve, c'est pas l'humilité, c'est pas aussi simple. C'est parce qu'il y a une forme de normalité qui était. Écouter sa conscience, c'était normal.
Donc, écouter sa conscience, c'est ce que l'on peut retenir. Et Enguerrand Servier, vous voulez rajouter ?
J'ajouterais juste en complément de la conscience qu'effectivement, je pense que c'était une action morale et non politique pour ceux qui se sont lancés dans cette résistance spirituelle. Et donc, ils ne voulaient pas en tirer des bénéfices politiques. Je ne suis pas en train de dire que les résistants gaullistes, communistes n'ont pas été grandioses. Il y a des faits d'armes tout à fait incroyables. Mais il n'y avait, je ne pense pas, pas de calcul, d'autant plus que, en réalité, le seul calcul qu'avait à faire le clergé ou le catholicisme comme institution, c'était sa cohérence et son unité dans un contexte où Vichy les avait longuement choyés publiquement. Donc, c'était extrêmement complexe de s'affirmer comme individu par rapport à l'unité de la communauté.
Merci beaucoup, messieurs.
Merci à vous.
Je vais vous poser une dernière question, mais je vous ne demande pas de réponse. Vous dites la recherche historique ne finit jamais. J'aurais tendance, et le lecteur aurait tendance à vous poser la question, c'est que reste-t-il à faire dans ce domaine selon vous ? Sans doute beaucoup de choses, vous me direz. Nous n'avons pas parlé de l'abbé de Noroy. Nous n'avons pas pu citer la lettre aux accents si contemporains de Monseigneur Théas, mais je renvoie les auditeurs à ce livre donc, qui est paru cette année et qui s'appelle « Les héros de la résistance catholique ». Messieurs, mille merci.
Merci.
Au revoir à tous nos éditeurs.